Terre des Hommes. L'émission qui donne la parole aux étudiants étrangers, proposée par le service du recrutement international de l'Université catholique de l'Ouest.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission à Terre des Hommes. Aujourd'hui, autour de ce plateau, autour de cette table, nous avons deux invités, en tout cas Clément, mon collègue.
Salut Jean.
Qui va animer cette émission, je lui passe le micro dans quelques instants, et Mehdi Sistou, qui va nous raconter son histoire, son évolution depuis son master, et ce qu'il fait aujourd'hui, il a beaucoup de choses à nous dire. Merci et à tout de suite.
Terre des Hommes.
Bonjour Mehdi, comment vas-tu ?
Mais ça va, et toi Clément ?
Mais ça va très bien, je te remercie. Alors Mehdi, je crois que tu es déjà passé au micro de Terre des Hommes pour nous parler un petit peu de ton parcours étudiant à l'Université catholique de l'Ouest. Bon là, aujourd'hui, tu es passé de l'autre côté, parce que tu es devenu un collaborateur du recrutement international.
Exactement.
Depuis quand tu travailles avec nous ?
Je suis arrivé en stage ici, il y a tout juste un an, le 28 février 2021, et je suis passé officiellement en contrat avec vous depuis le 1er août.
D'accord.
Donc ça fait un peu plus de 7 mois maintenant.
Ok. Et alors, quelles sont les missions qui t'ont été confiées dans cette dynamique de recrutement et de développement à l'international ?
Alors, le service m'a confié le développement d'une zone, qui est la zone de la communauté des États indépendants, donc qui couvre tout le territoire de l'ex-Union soviétique. Il y a quand même la plus grosse partie, ça reste la Russie, puisque c'est le plus grand pays, c'est là où il y a le plus grand nombre d'habitants. Et un petit peu d'Ukraine, même si on n'a pas pu se déplacer depuis que je suis là.
D'accord. Bon, je pense qu'on y reviendra parce que ça coupe quand même une bonne partie de l'actualité de ces derniers jours. Il ne s'agira pas dans cette petite émission d'en faire une analyse très géopolitique. Hein. Je pense que beaucoup de choses sont dites dans les médias, à la télé comme à la radio, dans les journaux, la presse écrite. Là, c'est plutôt le ressenti qu'on peut avoir, nous, au recrutement international, l'impact que peuvent avoir les mouvements internationaux, les glissements, les guerres, finalement. Sur l'activité d'un service, parce qu'on n'y pense pas, peut-être que nos auditrices, nos auditeurs n'imaginent pas, comment un service de recrutement international dans une université française peut être impacté par ce qui se passe dans le monde. Alors, depuis que tu as intégré notre service, tu as quand même pu participer à des événements, peut-être pour commencer à promouvoir notre offre dans ces pays-là.
Oui, tout à fait. Donc, on a fait un premier webinaire en avril dernier, qui était sur la Russie, Kazakhstan et Ukraine. On a eu des trois nationalités. Un deuxième qui s'est passé avec la Géorgie, l'Azerbaïdjan. Et puis j'ai pu participer à un salon en direct, à deux salons en direct, à Moscou et à Saint-Pétersbourg en octobre dernier.
Super.
Voilà, donc c'était très très bien, très très bonne rencontre avec les étudiants, beaucoup d'échanges, et avec notre agence partenaire qui est basée à Moscou également.
D'accord, et tu as senti dans tous ces pays-là un appétit de France, des étudiants désireux de venir étudier chez nous ?
Oui, tout à fait. Bah, en fait, la Russie, c'est déjà le pays d'Europe de l'Est où il y a le plus de francophiles. L'Institut français de Moscou, c'est un des plus grands du monde. Je crois qu'ils ont peut-être un millier d'inscrits par an qui viennent prendre des cours de français, qui viennent regarder la médiathèque de l'Institut français. Pareil pour l'Alliance française de toutes les villes comme Samara, comme Saint-Pétersbourg et tout. Donc ouais, il y a vraiment un appétit de France et un appétit d'études en France aussi, puisque la Russie envoie plus ou moins 500-600 étudiants tous les ans vers la France.
D'accord. Et là, est-ce que le contexte actuel... Alors, dans la question, je pense qu'on connaît déjà la réponse, mais je te la pose quand même. C'est toi le spécialiste dans notre service de cette zone. Finalement, quelles seront les conséquences à court terme ? Parce que le court terme pour nous, c'est la rentrée de septembre 2022. Dans cette activité que tu développes auprès des étudiants russes, ou en tout cas russes, géorgiens, ukrainiens, ces zones que tu développes ?
Bah, la conséquence première déjà sur le vraiment très court terme, c'est que je devais repartir à Moscou à la milieu du mois de mars, que ça ne peut pas se faire. Donc on avait commencé tout un programme de développement de la zone, rencontrer avec les étudiants, rencontrer avec les consulats et les ambassades. Ça ne va pas pouvoir se faire. Et puis l'autre conséquence, c'est que les étudiants ne vont pas pouvoir venir à la rentrée. Donc il y avait déjà plusieurs étudiants que j'avais en contact régulier, qui sont à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et qui ne pourront pas avoir de visa, je pense. En tout cas, on en a parlé avec Fabrice Rousseau, qui est le conseiller culturel de l'ambassade de France à Moscou, qui nous a clairement dit que c'était très compromis pour cette année. Non seulement pour les échanges culturels qu'il va y avoir entre les deux pays, puisqu'il y a des sanctions économiques, des sanctions également qui vont peut-être être militaires et culturelles, du coup, sur l'envoi des étudiants. Mais surtout, en fait, ça va casser toute la dynamique du projet qu'on avait de développement de la zone, qui avait été initié depuis le mois d'août dernier, en fait. Donc c'est sacrément triste, et voilà. Il y avait pas mal de prospects qu'on avait, des personnes en contact, et qui vont pas pouvoir venir, et qui, finalement, c'est un peu leur projet professionnel qui ne va pas aboutir, et je trouve ça très triste d'un point de vue des relations entre les pays.
Bien sûr, ouais. Donc là, si on te comprend bien, ce type de conflit, bien que certains puissent penser qu'ils sont loin de chez nous, eh ben, ils ont un impact direct, très concret dans notre activité. Mais je tiens à rassurer nos auditrices, nos auditeurs, on parle d'une activité de développement du recrutement d'étudiants dans certains pays. Nous avons déjà des étudiants russes, nous avons des étudiants ukrainiens. Toutes nos pensées d'ailleurs se tournent vers ces étudiants qui aujourd'hui ont encore leur famille dans cette zone de guerre. On pense très fort à eux et ces étudiants-là, évidemment, ont tout notre soutien encore plus particulier, encore plus individualisé dans ces temps assez troubles. Donc évidemment, cette opportunité, on va la mettre entre parenthèses.
Tout à fait, il va falloir de toute façon, parce qu'on n'a pas le choix. Là, c'est même plus seulement l'Union européenne qui fait des sanctions. Les vols sont interdits vers les États-Unis, vers le Canada. Les bateaux peuvent plus amarrer. Donc, de toute façon, ça va être toute l'activité russe va être paralysée et même isolée du monde, en fait.
Oui. Donc,
indépendamment de toute considération politique, pour toi, parce qu'on te sent très ému dans cette histoire-là, pour toi, nos amis étudiants russes restent des amis.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir.
Bien sûr, et la majorité des étudiants russes que je connais, en tout cas, et des personnes russes que j'ai pu en voir ce week-end, sont totalement opposées à la guerre. Elles sont totalement opposées à ce qu'a fait Vladimir Poutine. Et il y a un fort soutien, une forte mobilisation des Russes qui vivent en France et même sur place, à Moscou, contre la guerre et au soutien aux Ukrainiens. Et c'est très touchant de voir ça, puisqu'on le sait, depuis 2014, l'invasion de la Crimée par la Russie, le peuple russe était quand même très très favorable à ce que la Crimée devienne russe. Et maintenant, il y a quand même une dynamique qui s'inverse. Et de voir que la Russie réagit comme ça, il y a plus de 6 000 arrestations par jour en ce moment. Plus de 2 000 arrestations par jour et à peu près 6-7 000 au total depuis une semaine à Moscou pour les manifestations. Et on voit quand même qu'il y a une mobilisation qui se développe anti-Vladimir Poutine et c'est émouvant de voir ça. Oui.
Comment tu vas rebondir toi-même, personnellement ? Parce qu'il y a une notion d'émotion aussi, il y a une notion d'histoire personnelle. Tu as fait une partie de tes études à Saint-Pétersbourg, tu parles russe.
Oui, je parle russe. Je n'ai pas fait d'études à Saint-Pétersbourg, mais j'y suis allé régulièrement.
C'est ça.
Et évidemment, je trouve ça très dommage parce que c'est un pays que j'affectionne beaucoup, tant en termes de population, puisque la culture, elle me parle personnellement. Pareil que la culture ukrainienne, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y aller là-bas aussi. Et ne pas pouvoir développer finalement un projet professionnel qui soit en rapport avec cette zone-là pour l'instant. Ça met un petit peu mes études, entre parenthèses, ce que j'ai fait avant, et mon activité ici aussi. Finalement, je vais devoir me réaxer sur peut-être une autre zone et peut-être faire autre chose dans ma vie, quoi. Voilà.
Mehdi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette crise? Qu'est-ce qu'il faut que la jeunesse du 21e siècle dise et fasse pour que des vieux dirigeants qui veulent imposer des choses terribles, avec une potentialité de catastrophe dévastatrice, qu'est-ce que vous, les jeunes, vous avez envie de dire au monde? Quel genre de gouvernance vous souhaitez? Alors, c'est peut-être un peu plus politique ma question, mais oui. T'as le droit de te lâcher quelque part. On n'est pas là pour attaquer un président ou un autre. La question, c'est quelles sont tes aspirations au fond de toi? Tu as quel âge? Tu as 25 ans.
Oui.
Tu as 25 ans. Tu fais partie de cette jeune génération qui, dans 5-6 ans, sera aux commandes de nos pays, quand même. À quoi est-ce que vous aspirez, vous, les jeunes, aujourd'hui?
Nous, on aspire comme beaucoup de personnes dans le monde, finalement, la majorité des personnes dans le monde, j'ose le croire, la démocratie, à la paix, à la liberté. C'est des valeurs qui sont essentielles. Et il ne faut pas oublier quand même que sur la Russie, c'est une culture qui est différente de la nôtre. Ils n'ont jamais connu vraiment de démocratie, que ce soit au XIIIe siècle avec l'invasion des Mongols sur la Russie, jusqu'au XVIe siècle, ou après les tsars, ou après l'Union soviétique. Et depuis la chute de l'Union soviétique, il n'y a jamais eu vraiment de vraie liberté en Russie. Donc c'est deux modes de fonctionnement politique qui sont à prendre en compte. Ils n'ont jamais connu cet aspect de liberté comme on a, de démocratie également. Donc là, quand on voit ça, que le peuple russe finalement est en train de se lever un peu contre le pouvoir en place, ça me fait plaisir parce que je me dis peut-être que finalement il va pouvoir y avoir quelque chose, un vrai changement dans le monde. Et ça peut-être faire bouger les choses aussi au niveau de l'Union Européenne, puisqu'on n'a jamais été aussi soudés. Vladimir Poutine a quand même réussi ça, et c'est quand même quelque chose de bien, c'est qu'il a soudé l'Union Européenne, il a soudé les membres de l'OTAN. Et c'est quelque chose... Il peut y avoir une escalade militaire, mais en attendant, j'espère fortement que, comme l'Ukraine, la Russie trouvera un moyen plus démocratique de faire les choses à un moment donné dans les prochaines années.
Tu crois que les étudiants russes et français, et nos écoles françaises et les partenariats qu'on a avec des établissements d'enseignement supérieur en Russie vont continuer de travailler ensemble?
Pour l'instant, tout est fermé. Et comme on est au plein milieu de la crise et que, de toute façon, il y a une imprévisibilité qui est totale, de façon à ce que... on ne sait pas ce que Vladimir Poutine va faire ensuite. Donc oui, j'espère qu'ils vont continuer à travailler ensemble, mais pour l'instant, de toute façon, il y a seulement les services consulaires en Russie qui sont ouverts. L'Institut français a fermé à Moscou, l'Alliance française également, le lycée français de Moscou est fermé. Donc pour l'instant, c'est une incertitude totale.
C'est-à-dire que les projets sont impactés, les projets des étudiants en premier lieu. On sort quand même d'une crise Covid qui est longue. On a senti un attrait... supérieur par rapport à ces deux dernières années, c'est-à-dire plus d'étudiants qui souhaitaient réactiver leur projet d'études à l'international. Et là, à nouveau, les événements font qu'on leur coupe l'herbe sur le pied. Et tous ces étudiants qui ont attendu pendant 2 ans que la situation soit plus favorable pour bouger, eh bien finalement, ils vont encore devoir attendre. Les Russes comme les Ukrainiens.
Les Russes comme les Ukrainiens et même dans d'autres pays du monde. Hein, puisque on a vu cet été, en Guinée, le coup d'État, ça a paralysé aussi les choses pour nous et pour beaucoup d'autres secteurs.
Tout à fait. En fait... l'activité de notre service, la mission en tout cas d'attractivité des études en France à travers le monde a un impact et impacté directement par ce qui peut se passer à travers le monde. Là, oui. Tu donnes l'exemple de la Guinée, mais c'est un excellent exemple. Alseni Kaba, qui est notre représentant sur place à Conakry, avait fait un recrutement peut-être le meilleur depuis son lancement avec notre service. Énormément de candidats, énormément d'étudiants admis. Coup d'État durant l'été, tous les services administratifs ferment, notamment les services consulaires français, et je crois qu'on a accueilli un étudiant, deux étudiants au grand maximum.
Deux étudiants, oui.
Deux étudiants. Voilà, donc on est nous-mêmes impactés très directement. Évidemment, c'est beaucoup moins dramatique que ceux qui sont sur ces zones de conflit, mais l'impact est bien réel.
C'est là qu'on voit quand même, Mehdi, l'impact, j'ai envie de dire, de la vie universitaire, de ce que délivre l'université et la société. En fait, pour construire une société de paix, avec des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sortent diplômés, quel que soit leur diplôme, et qui soient capables ensuite de prendre des responsabilités dans une dynamique de recherche de la paix et du respect de l'autre, eh bien il faut que ça soit enseigné, il faut que ça soit formé. Tout part de l'école, non ?
Tout part de l'éducation, oui, tout à fait. L'éducation non seulement à la maison, mais aussi à l'université, au lycée, etc. Tout se fait dans la sociabilisation. Il faut effectivement que ces valeurs soient enseignées dès le plus jeune âge, et c'est ce qu'on essaye d'inculquer. Parcours personnel, je suis aussi enseignant de géopolitique dans l'école de commerce l'ESCA à Angers, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est de leur montrer que finalement tout est dépendant, tout leur commerce qu'ils vont faire plus tard, c'est dépendant d'une situation géopolitique globale, et que pour être dépendant de ça, tout en faisant du bon commerce, il faut promouvoir des valeurs de paix, des valeurs de démocratie, des valeurs de ce qu'ont fait la France, de ce qu'ont fait l'Union européenne actuellement. Voilà.
C'est tout l'enjeu de l'université. C'est compliqué parce que quand on met dans une même salle de cours, imaginons que dans quelques temps, j'espère le plus vite possible, on retrouve dans une salle de cours un Russe et un Ukrainien. Je me rappelle d'une expérience que j'avais vécue avec un Tutsi, un Hutu qui était venu du Rwanda, ici même à l'UQO, et qui ont mis beaucoup de temps à se parler. Il y a un enjeu considérable quand même de rassembler tous ces gens dans une même salle de cours pour un but commun, étudier, en vue, une fois diplômé, de servir un pays, nos pays, dans un respect absolu de nos cultures, de nos histoires. Il y a un sacré challenge quand même.
Il y a un challenge, mais c'est tout à fait réalisable et c'est ce qu'il faudrait souhaiter. C'est qu'il n'y ait pas de considération politique dans les études. Il faut que les étudiants soient à la hauteur de leurs valeurs, leurs convictions à eux, qu'ils promeuvent ensemble quelque chose de commun, qui sont ces valeurs-là, la paix, la démocratie, la liberté. Et j'espère de tout cœur que ce sera le cas d'ici peu.
Il n'y a pas d'autre option, en fait.
Non, il faut être ensemble dans ces moments-là. Il y a une guerre, il y a une crise qui est atroce. Les Ukrainiens souffrent, la population russe souffre aussi, et il faut que de cette crise il naisse quelque chose, un nouvel espoir, et qu'on soit ensemble pour promouvoir ces valeurs-là.
Tu as dit un mot qu'on utilise très souvent en Afrique, Clément, tu ne me contrediras pas, je pense. Les Africains disent tout le temps, lorsqu'on se salue, on est ensemble. On est ensemble. Les Camerounais, notamment, disent toujours ça. Le « on est ensemble » en Afrique, c'est très important. Quand on se salue et qu'on dit qu'on est ensemble, ça veut dire on est dans le même bateau. On a la même pirogue, on travaille ensemble, on résout les problèmes ensemble, on pose et on identifie les problèmes ensemble, on cherche des solutions ensemble. J'espère que ce que tu dis est prophétique, c'est-à-dire qu'on va apprendre dans ce monde à être enfin ensemble. J'ai envie de dire frères et sœurs d'une même humanité.
Le monde est un village, comme tu dis si bien.
Le monde est un village. Clément, tu pourrais, je te laisse conclure cette émission, mais c'est quand même émouvant tout ce qu'on vient d'entendre.
C'est très émouvant et en même temps c'est assez porteur d'espoir parce que on est quand même tous en train de dire que c'est sur le banc de l'université, en tout cas c'est une des solutions, qu'on peut renouer, qu'on peut consolider cette fraternité entre les peuples. Donc nous on va rester très attachés à notre mission, on va être très attentifs à ce qui se passe dans le monde. Et dès que l'occasion se représentera, eh bien évidemment qu'on va essayer de recréer ce lien par ce qui nous est confié, c'est une mission éducative, en faisant venir des jeunes qui, sur le même banc à l'université, vont pouvoir cohabiter, coexister et vivre ensemble, être ensemble comme tu le dis. Alors Mehdi, peut-être qu'on te laisse le mot de la fin, c'est-à-dire un petit message à adresser à nos étudiants dans leur globalité, mais aussi à nos étudiants ukrainiens et nos étudiants russes, évidemment, parce qu'on est tous dans le même bateau.
Tous dans le même bateau, donc le mot de la fin pour moi, ce sera... Restez dans vos convictions et les convictions que l'Université catholique de l'Ouest porte, donc la paix, l'ouverture,
le dialogue
et ne pas mettre au banc d'autres étudiants qui pourraient ne pas avoir les mêmes convictions que vous et juste essayer de discuter avec eux. Soutenir déjà le peuple ukrainien, les étudiants ukrainiens qui sont en France, les étudiants russes également qui se soulèvent contre ce massacre de la population ukrainienne et juste dire non à la guerre.
Merci à tous, on vous salue tous, l'émission est quand même est grave quelque part et nous espérons que la prochaine fois que nous serons devant ce micro, nous pourrons partager de meilleures nouvelles. En attendant, vive l'humanité, vive Terre des Hommes, que vive Terre des Hommes. À bientôt chers auditeurs et chères auditrices.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.